Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
Bah déjà, j'ai eu la chance, on va dire, de faire vivre toujours Louise pendant les 16 mois où j'ai pas eu Clémence. Et ben pendant ces 16 mois-là, j'ai continué de la faire vivre d'une autre manière. Donc je savais, en fait, quand j'ai perdu ma fille, j'essayais de chercher du réconfort et du soutien là où j'en avais pas. Et je suis tombée sur une maman qui avait elle-même perdu sa fille, Juliette. Et à chaque fois, je dis que c'est la meilleure amie de ma fille au paradis. Et elle m'a dit une phrase qui résonne et qui résonnera toujours. C'est « Tu n'es plus sa maman-maman, mais tu peux être une maman autrement. » Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas l'être autrement. Louise, elle n'aura pas besoin de veilleuse pour sa chambre, mais elle aura peut-être besoin de veilleuse au cimetière avec tout ce qui est lampe solaire. Elle aura peut-être besoin. Donc, j'ai été maman autrement à ce moment-là. C'était le temps qu'il me fallait pour être une autre maman. Et du coup, quand Clémence est arrivée, il y avait déjà tout ça qui était mis en place. Donc, du coup, j'ai rien eu à changer. J'ai pas eu un autre équilibre à trouver. C'était déjà imposé. Et Clémence, très petite, on lui a parlé de sa sœur, donc on l'a emmenée au cimetière. Et c'est pas que le chagrin était passé, mais elle n'a pas vécu les phases où on pleurait au cimetière. Elle a connu que le côté salvateur de l'emmener lui présenter. Donc du coup, ça s'est toujours fait très facilement avec elle, lui a montré qu'il faut nettoyer la tombe, lui arroser ses fleurs. Donc Clémence, en fait, elle a fait avec nous ce chemin, elle nous a incité à aller vers la vie, mais la vie avec Louise. Donc elle a elle-même inclus sa sœur dans tout ça. Quand on va dans un magasin à chaque fois de fleurs et qu'elle nous dit « je veux une fleur pour Louise », ben oui, même si nous on n'y pense pas, elle y pense. Donc il y a comme une relève et on se sent rassuré dans nos émotions quand elle est avec nous. Il y a maintenant Salomé. Commence à comprendre plus de choses. Elle connaît le cimetière, elle sait quand on passe devant que c'est pour sa sœur. Donc Louise a toujours fait partie de ce paysage familial constamment, tout le temps. Elle est là au-dessus, même si nous, on ne la voit pas. Quand Clémence me pose des questions sur sa sœur, je lui réponds le plus facilement possible et j'essaye vraiment d'apporter des mots juste pour qu'elle les comprenne. Il n'y a pas le poids du deuil qui leur est imposé sur les épaules. Au contraire, c'est toute la belle partie, celle d'entretenir quelque chose pour quelqu'un, le faire parce qu'on aime les fleurs, le faire parce qu'on pense à elle et c'est tout. Que des choses très positives, en fait.
Le deuil périnatal, ça a un début et ça n'a pas de fin. Je crois qu'il faut l'entendre. On ne termine jamais son deuil. On chemine au quotidien, c'est un processus long qui dure toute une vie. Parce qu'on ne l'oublie pas, ce bébé qu'on attendait, qu'on aimait, avec qui on a partagé tant de choses. Quand on est frappé par la mort de son enfant, on saute à pieds joints dans cette épreuve si dure et si méconnue et si injuste, on voudrait nous faire croire que les éventuelles grossesses suivantes, que les enfants qui viendraient agrandir la famille, serait comme le point final de ce deuil. Mais non, c'est faux. Et ce n'est pas mon invitée, Laura, qui dira le contraire. L'absence, c'est pour toute la vie. Sa première fille, Louise, sera pour toujours absente, invisible aux yeux des autres, mais d'une absence très particulière. Parce que Louise, elle vit autrement. Louise, elle vit dans les dates anniversaires, dans ce mois de février qui a vu naître deux de ses trois petites sœurs, mais aussi dans ce lien que Laura et son compagnon tissent entre chacune de leurs filles. Oui, Louise, elle n'est plus là, mais elle est donc là, d'une autre manière. Une présence-absence, donc. Elle est là pour Laura. C'est sa bonne étoile qui se révèle à elle et qui lui fait des clins d'œil. Elle est sur ses photos et ses dessins, sur ses souvenirs qui tapissent son cœur et les murs de sa chambre. Et puis Louise, elle est là pour ses sœurs, pour Clémence, pour Salomé, pour Romy. Louise, c'est cette grande sœur avec qui elles ne peuvent pas jouer, mais une grande sœur qu'elles vont voir régulièrement, à qui elles offrent des fleurs, des bougies et des dessins. Au revoir podcast, épisode 32. Laura. Tisser le lien entre Louise et ses petites sœurs. Dans cet épisode, c'est la voix de Laura que vous allez entendre. Laura a 28 ans et vit dans la campagne en plein milieu de la France avec son compagnon Jordan et leur fille, leur petit gang de filles. Il y a Clémence, née en février 2018, puis Salomé, arrivée en juillet 2019, et puis il y a Romy, qui a pointé par surprise le bout de son nez en 2021. Et avant elles trois, il y a eu leur grande sœur, Louise. Louise, qui est née le 25 février 2016, mais qui, quelques jours après sa venue au monde, a présenté de graves problèmes de santé, nécessitant une prise en charge en réanimation, loin de la maternité où Laura avait accouché. Louise, dont la courte vie, puisqu'elle est décédée le 1er mars suivant, a bouleversé à jamais la vie de ses parents et de ses sœurs.
Notre hôpital étant un hôpital de niveau 2, elle a été transférée automatiquement en niveau 3, donc en réanimation néonatale, au CHU de Dijon, donc à 3 heures de chez nous, en hélicoptère. C'est là-bas qu'ils ont pu réaliser des tests, voir ce qui n'allait pas. Jusque-là, on ne savait pas du tout ce qui se passait. On n'avait aucune idée de ce qu'elle avait, ni de la sévérité de la maladie, en fait. On ignorait tout, on pensait juste qu'elle allait être sauvée puisqu'elle était dans un plus grand hôpital. Et arrivée là-bas, en fait, non, ils nous ont expliqué qu'elle était atteinte, selon eux, d'une maladie rare et incurable et que malheureusement, tout ce qu'ils avaient pu mettre en place jusque-là, ça n'allait pas tenir puisque la pauvre s'affaiblissait et qu'il n'y avait rien à faire et qu'elle allait mourir.
Louise a vécu 6 petits jours. Louise, ce bébé tant attendu, laisse Laura et Jordan, parents orphelins. Et c'est un autre monde qu'ils découvrent rapidement, bien loin de ce qu'ils s'étaient imaginé. Un monde peuplé d'émotions violentes, d'émotions jamais ressenties dans ses proportions. Un monde dans lequel vous sautent au visage des mots qu'on aimerait ne jamais entendre. Tests génétiques, maladies métaboliques, risques de transmission, de récidive. Et l'attente. L'attente, car 6 mois sont nécessaires avant que Laura puisse connaître la maladie de sa fille et en savoir plus sur son impact, lorsque Jordan et elle songeront à avoir d'autres enfants.
Disons qu'en fait, à l'hôpital, ils nous avaient très clairement parlé de la fratrie qui arriverait après. En parlant de la maladie de Louise, ils nous ont expliqué que ça pouvait être génétique et donc du coup, on a dû faire des tests génétiques. Et que pendant les quelques mois qui ont suivi le diagnostic, les examens, etc., comme on savait rien, c'était sur pause. On pouvait pas avoir, enfin, ils nous ont très clairement fait comprendre qu'on ne devait pas essayer d'avoir des enfants. Tant qu'ils ne savaient pas, on ne pouvait pas. Alors j'avais hâte parce que j'étais prête à être maman. J'étais déjà maman en fait, donc j'avais l'impression qu'on me rajoutait du délai. Il prépare au fait qu'il n'y aurait peut-être pas de résultats ou que les résultats ne soient pas ceux qu'on attendait. Et c'est vrai que le jour où on... Enfin, alors nous, on a eu les résultats, la réponse. Et en fait, ça collait pas avec ce que j'imaginais. Je me suis pris une claque ce jour-là. J'ai eu le décès qui était très, très difficile, éprouvant. Et c'était la pire claque de ma vie. Mais alors, le jour où j'ai appris que c'était pas accidentogène comme il pouvait l'espérer, c'est malheureux à dire, mais il l'espérait, que c'était pas elle qui avait contracté cette mutation toute seule en se créant ses gènes, mais que c'était pas même pas l'un ou deux, mais nous deux, ça a été difficile. C'est là où on a compris que la course à la maternité allait être très compliquée après. Bah, surtout qu'on, c'était la première fois qu'on retournait dans l'hôpital en question, puisque c'est quand même à 3 heures de chez nous, donc c'est quand même pas à côté. Donc on y est allé, on avait quand même beaucoup d'appréhension, mais on allait bien, on allait bien. C'est un grand mot, mais on supportait, on était assez fort. Arrivé là-bas, on a revu l'équipe, on a revu les médecins qui sont occupés de Louise, donc quelque part, ça nous a fait du bien aussi de les revoir, de les retrouver. C'est comme si on revenait sur un moment, comme si on revenait là pour le coup 6 mois en arrière, parce qu'on a eu les résultats 6 mois après. Ils ont été plutôt bienveillants, plutôt gentils. Après, à chaque fois qu'ils nous ont annoncé des mauvaises nouvelles, même à l'époque quand ils nous ont expliqué ce qu'elle avait potentiellement comme maladie, je me souviens que pour Louise, quand ils nous ont dit voilà, votre fille va mourir, elle a on pense telle maladie, je suis tombée en fait dans les pommes. J'ai perdu connaissance, j'ai beaucoup pleuré. Et derrière, c'est toute l'équipe de Réa qui nous a quand même vachement aidés en nous réexpliquant plusieurs fois ce qui allait se passer, pourquoi. Là, on n'a pas eu ça. Donc du coup, on a revu juste l'équipe, ils nous ont expliqué avec des mots très gentils et que voilà, c'était compliqué, qu'on allait avoir beaucoup de... Ça allait être très compliqué pour avoir d'autres enfants, hein. Que eux pensent que, vu les risques, il serait mieux de s'engager sur un parcours PMA pour s'éviter une IMG en cours de grossesse.
D'après toutes les analyses, Louise a donc été emportée par une maladie métabolique. Les maladies métaboliques sont des pathologies qui résultent de l'absence ou de la dysfonction de certaines enzymes nécessaires pour vivre. Les enzymes, ce sont des protéines fabriquées par l'organisme qui sont indispensables à l'activité cellulaire. Avant de naître, Louise allait bien, rien ne laissait présager le fait qu'elle soit malade puisqu'elle se servait des enzymes de sa maman, in utero. Mais ces résultats, qui viennent clore 6 mois d'attente, mettent également un point d'arrêt aux projets parentaux de Laura et Jordan. Comme vient de l'expliquer Laura, les médecins leur conseillent, pour avoir un autre enfant, de passer par la PMA, la procréation médicalement assistée et plus particulièrement une FIV-DPI, fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic préimplantatoire est proposé au couple ayant, je cite, une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, selon le Code civil. C'est le cas de Laura et Jordan, tous deux porteurs d'une mutation génétique qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Ces derniers, s'ils héritent des deux mutations, développeraient alors la même maladie que Louise. C'est pour éviter ce cas de figure que les médecins leur parlent de la FIV-DPI. Elle consiste à réaliser un diagnostic génétique à partir de cellules prélevées sur un embryon obtenu par FIV. Ainsi, seuls les embryons qui ne seraient pas porteurs des deux mutations pourraient être ensuite transférés. Mais l'attente avant une FIV-DPI, c'est long, très long. Plusieurs mois, voire des années d'attente, des dizaines de rendez-vous, de dossiers à monter. En novembre 2022, par exemple, seuls 6 centres sont autorisés par l'agence de biomédecine à pratiquer ce type de FIV. 6 centres dans toute la France. Mais revenons-en à 2016, à Laura et Jordan. Cette nouvelle fait l'effet d'un coup de massue, d'autant que le couple a des difficultés à se mettre au diapason. Trop de choses à encaisser d'un coup, trop de questions, d'incertitudes, et puis l'attente, encore et toujours. Comment gérer cette envie d'avoir des enfants, mêlée à cette nécessité de se sentir rassurée, et puis Comment s'imaginer, alors que l'envie est si urgente, de devenir un nom, un numéro sur une liste d'attente, une liste longue comme le bras, pour ensuite tenter des fécondations in vitro?
Ça a été très compliqué. Dans ma tête, à ce moment-là, il y a eu tellement d'informations à gérer que j'ai pas tout retenu. Et c'est sur le chemin, quand on est reparti tous les deux avec Jordan, j'ai eu l'impression qu'on n'avait déjà même pas le même, on n'avait pas le même discours, lui et moi. Comme si on n'avait pas eu le même entretien. On avait tellement de différences sur ce qu'on avait compris que du coup, c'était déjà difficile de se mettre l'un et l'autre ensemble pour comprendre ce qui nous était arrivé à ce moment-là. Et après, on a échangé sur est-ce qu'on serait d'accord ou non, parce qu'ils ne nous ont pas inscrits sur liste ce jour-là. Ils nous ont dit, vous nous rappelez, vous nous dites si vous êtes OK ou pas. Donc, à ce moment-là, moi, je voulais être maman. Enfin, j'étais maman, mais je voulais encore être maman. Et c'est limite si j'aurais pas dit, bah allez-y, inscrivez-moi tout de suite, il n'y a pas de problème, on n'attend pas. Mon conjoint était beaucoup plus sur la réserve. Donc, j'ai attendu d'en parler avec lui pour voir ce qui se passait, en fait, dans sa tête. Donc, pendant des mois et des mois, c'était un petit peu prise de tête à la maison sur comment on va arriver à avoir d'autres enfants. Ouais, j'ai eu l'impression que les jours étaient des éternités et j'avais dans la tête que ce projet-là. Je voulais pas travailler, je voulais pas me laver, je voulais pas manger, je voulais un bébé. Et quand je voyais des femmes enceintes dans les magasins, j'étais intérieurement odieuse. Je ne leur aurais rien fait. Mais dans ma tête, j'étais tellement envieuse de ce qu'elles avaient que je n'avais plus. Que je devenais méchante. Je suis devenue méchante pendant des mois et des mois, affreuse avec mes proches. J'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu à toutes celles qui avaient des grossesses et pas moi, parce qu'en plus, à côté de ça, on essayait quand même naturellement et que tous les mois, sur le test pipi, il y avait toujours qu'une seule barre, il n'y en avait pas deux. Donc c'était encore plus dur, ça en rajoutait et c'était vraiment une descente aux enfers. On essayait déjà, on se disait tant pis, c'est pas grave. On verra. De toute façon, ça nous arrivait une fois, ça ne reviendra pas. Mais j'ai mis 16 mois pour retomber enceinte de Clémence. Hein. 16 mois dans le doute, 16 mois de... C'était juste affreux. J'y pensais jour et nuit.
16 mois avant que Laura soit enceinte et que la grossesse passe l'étape du premier trimestre. Car Laura a beau désirer ardemment tomber enceinte, elle a beau espérer de toutes ses forces que la maladie ne sera pas transmise, elle se heurte à des obstacles. Des tests positifs, elle en a parfois. Mais toutes ses grossesses s'interrompent quelques semaines plus tard. Des arrêts naturels de grossesse, elle en avait déjà subi 3 avant Louise. Et pendant 16 mois, elle traverse à nouveau cette épreuve, à 3 reprises. Mais elle revient quand ? La douceur.
Donc pendant ce temps-là, nous avons aussi eu tout ce qui était recherche. Quand on fait plusieurs fausses couches, ils nous font des recherches par cariotype, etc. Donc on a eu toutes ces recherches-là à comprendre pourquoi. Parce que alors souvent j'avais « mais c'est psychologique, c'est un blocage ». Oui, mais non. Mais même, c'est que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Mais je le ferai jamais, mon deuil. Donc... On peut continuer comme ça longtemps. Donc, à un moment donné, je leur ai dit, il faut que vous m'aidiez, vous me donnez des vitamines ou je ne sais pas quoi, mais il faut m'aider parce que j'arrive à un point où si je n'ai pas mon enfant bientôt, je ne vais plus être là. Je ne peux plus gérer tout ça. Donc, après mes fausses couches, j'ai eu une période où on est parti en vacances tellement ça a été dur, en fait. Après ça, j'ai pu retomber enceinte. Et très bizarrement, je savais dès le premier jour que j'étais enceinte. Le premier, ça faisait 24 heures. Je disais à tout le monde, je suis sûre que c'est la bonne. Ouais, ça a été plus fort que moi. Je savais qu'elle était, je sais pas, je sentais que c'était ce moment-là et pas un autre. Quand on regarde plus en détail mon histoire, on comprend que ces 16 mois ont été très, très, très difficiles, mais nécessaires, en fait. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux me dire que c'était réellement nécessaire et qu'avant, ça aurait été beaucoup trop compliqué d'avoir une nouvelle grossesse. Là, j'ai eu plus de temps pour comprendre que j'avais mon rôle de maman endeuillée, donc de maman de Louise au quotidien, au cimetière, dans ma manière d'honorer sa mémoire. Et du coup, j'avais cette nouvelle grossesse. Mais par contre, ce qui était très compliqué, c'est que j'avais les mêmes dates de terme. Donc du coup, les potentielles dates d'anniversaire de Louise, c'était les dates de la naissance de Clémence à l'origine. Donc j'avais très très peur de ça. J'avais très peur d'accoucher en même temps et de faire comme un transfert en fait. J'avais peur de. D'ailleurs, pendant ma grossesse, je savais très bien que grossesse ne signifiait pas forcément avoir un bébé au bout. Donc c'était compliqué. Des fois, j'avais l'impression de me préparer pour un rendez-vous manqué, quoi. Mais j'arrivais à tisser des liens. J'étais, au contraire, je pense assez proche d'elle. J'avais besoin d'elle. Donc je lui rendais bien.
Et puis il y a le soulagement de voir que cette grossesse se poursuit, l'espoir qui revient petit à petit. Mais comme le précise Laura, il n'y a plus de place pour la naïveté et l'innocence quand on a déjà vécu le pire. Surtout que pour cette grossesse, il faut aussi faire un pari. Un risque sur quatre que le bébé soit malade. Mais trois chances sur quatre qu'il ne le soit pas. Autrement dit, qu'il ne soit porteur d'aucune mutation génétique ou qu'il soit porteur sain en héritant d'une seule mutation, celle de sa maman ou de son papa. Avoir recours ou non à la PMA est une décision très personnelle. Un jeu de hasard vertigineux, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour autant, le début de la grossesse est compliqué. On annonce d'ailleurs à Laura qu'elle risque de faire une fausse couche. Les semaines passent, les mois aussi. Il va falloir faire une biopsie du trophoblaste, soit un prélèvement d'une petite quantité de cellules du placenta, à la fin du premier trimestre, pour analyser l'ADN du bébé et écarter le risque d'une récidive. Mais cette pratique est risquée car le placenta de Laura est mal positionné. Alors elle devra avoir recours à une amniosynthèse, pratique plus tardive au cours de la grossesse. L'attente, encore et toujours l'attente. Il faut attendre un mois de plus, 17 semaines d'aménorrhée, puis 4 à 5 semaines supplémentaires pour connaître les résultats. Et puis l'appel téléphonique tant attendu, un matin. C'est bon. C'est une bonne nouvelle.
Je me suis dit, ça y est, c'est bon, elle va bien, elle va vivre, elle va être avec toi. Tu as ce que toutes les mamans ont normalement, un bébé en pleine santé. Et c'est ton tour. Vis-le comme il le faut, vis-le correctement. J'ai beaucoup, beaucoup acheté pendant ma grossesse. Beaucoup de tétines. Je lui ai fait sa chambre très tôt. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Même si ça s'arrête demain, parce que tout le monde me disait, oui, mais tu as fait beaucoup de fausses couches et ça peut s'arrêter. J'ai dit, c'est pas grave. Au moins, ça aura compté pour moi. Ça voudra pas dire qu'il y a un rien, un vide. Il y aura eu quelque chose à ce moment-là. Et du coup, c'était important pour moi d'acheter, de faire la chambre. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon conjoint, j'ai plus de photos de la chambre de Clémence que de moi enceinte d'elle. Disons que la question que je me posais le plus, c'était est-ce que je vais aimer cet enfant autant que j'ai aimé ma fille, mon premier enfant? J'avais peur de l'aimer moins, j'avais peur de lui apporter trop de soucis avec ce qui était arrivé et le décès de sa sœur, du coup. Donc j'avais vraiment cette crainte-là, ajoutée aux dates, ben je me disais, voilà, ma fille va penser que je la remplace. Du coup, c'était un peu problématique dans ma tête. C'est pour ça que je ne voulais absolument pas que Clémence naisse en même temps que Louise. Je me suis rapprochée de tous les médecins possibles pour ça. Ils m'ont assuré qu'ils feraient leur maximum pour que je n'accouche pas dans de mauvaises circonstances. J'ai même été voir une voyante hein, pour ça, pour voir si j'allais accoucher avant ou pas. Ah ouais, j'avais vraiment besoin de savoir quand est-ce que ça allait se faire et si ça allait bien se faire, si la naissance n'allait pas être trop compliquée. Clémence est née le 4 février. Elle est née à 37 semaines. Donc, j'ai pas eu tout ça à me poser comme question. Elle est née vraiment avant. J'étais même plus dans l'enceinte de l'hôpital quand il y avait les dates anniversaires de sa sœur. Donc, c'était parfait. Elle est née 3 semaines pile avant l'anniversaire de sa sœur. Quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, c'était la sage-femme que je voulais absolument pour mon accouchement. Donc, j'étais vraiment contente que ce soit elle. Et en fait, c'est la meilleure amie de ma sage-femme qui m'a accouchée pour Louise. Donc, c'était vraiment important pour moi que ce soit elle. Et donc, c'est elle qui a mis au monde Clémence. Clémence est née, et quand ils me l'ont posée sur le ventre, elle m'a dit, vous pouvez ouvrir les yeux, votre fille est là, votre fille est là. Et je me rappellerai toute ma vie. J'ai eu ce recul à ce moment-là où j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai fermé les yeux et je voulais pas la voir. Et j'ai dit non, je peux pas, non, je veux pas. Et après, j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu une petite minute, je pense, pour reprendre mes esprits, savoir ce qui s'était passé. Ça reste quand même éprouvant, un accouchement. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu Clémence, j'ai pas vu Louise sur le comme ça au début, ça m'est pas apparu comme une évidence. C'était Clémence, quoi. Et là, je l'ai serrée très fort dans mes bras et j'ai dit, en pleurant toutes les larmes de mon corps, c'est maman, c'est moi ta maman. Et alors là, tout le monde pleurait dans la salle. Bien sûr, c'était un accouchement très, 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 très émouvant. Et ma sage-femme, que j'adore, elle a été terriblement gentille avec moi. Elle a été tellement rassurante, tellement... C'était vraiment l'accouchement rêvé, quoi. Je ne pouvais pas rêver mieux pour accoucher de mon deuxième enfant après une épreuve pareille. Franchement, elle a été au top. En fait, quand Clémence est arrivée au monde, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il y a eu un sentiment de culpabilité qui s'est formé et qui est devenu beaucoup plus fort à ce moment-là. J'ai souvent dit à mon conjoint, je t'ai offert la mort sur un plateau, je t'ai offert un enfant malade, des souvenirs malheureux, parce que même si on a vécu de belles journées avec Louise, ben ça reste triste de s'en rappeler. Et du coup, quand Clémence est née, j'avais envie de me racheter. J'avais envie de lui dire, bah voilà, je t'ai pas offert que ça, je t'ai offert d'autres choses, et la preuve... Donc du coup, je lui ai tout laissé faire. Mais vraiment... pour être témoin en fait d'un autre amour, de lui dire que ben je l'aimais très fort et que ben je lui laissais cette place très forte auprès de Clémence toutes ces premières fois. Donc il avait le pot à pot, le premier biberon, le premier bain, toutes les premières fois avec Clémence, c'est le papa qui l'a fait, et je le regrette pas parce que c'était de très bons moments et moi j'étais pas capable, j'étais trop stressée. J'avais l'impression que si je m'attachais à ce moment-là et qu'on me la reprenait après, ben j'allais être à ramasser à la petite cuillère, j'avais pas envie de souffrir. Alors c'est à la fois égoïste et altruiste ce que je faisais, c'était très bizarre. Quand on a quitté la maternité, ça va me faire pleurer, je suis désolée. Et quand la sage-femme est venue pour me dire « bon, bah c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous », donc on a demandé une sortie anticipée, on avait vraiment besoin de se retrouver en famille. Et là, à ce moment-là, ils sont venus, ils m'ont fait tout plein de papiers, ils m'ont expliqué ce que c'était que l'avenir avec un bébé. Et vraiment, j'ai senti ce moment-là comme irréel, en fait. J'arrêtais pas de pleurer. Et elle me parlait, elle me racontait tout un tas de choses. Si votre bébé, il n'arrive pas à se moucher ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais dans autre chose, j'arrêtais pas de pleurer. Je tremblais, ils m'ont tous pris dans leurs bras quand je suis partie. Et ce moment-là, en fait, le moment où on a quitté l'hôpital, c'était le moment où la vie, elle a commencé. À ce moment-là, je tenais ma revanche entre les mains. Je me disais, ça y est, c'est pas grave. Elle n'a pas 7 jours encore. Elle n'a pas donc 6 jours révolus comme Louise. Mais c'est pas grave. Elle est là. Elle rentre à la maison. Elle va voir la chambre que je lui ai faite. Et c'est bizarre. Ce sentiment tellement fort. Et arrivé à la maison, j'ai pu prendre un peu mon rôle un peu plus à cœur. Mais j'étais en apnée pendant 6 jours où je me suis dit, à tout moment, elle peut partir, à tout moment, elle va me laisser, elle aussi, et ce sera fini, je ne serai pas bien. Et j'y croyais pas, en fait, jusqu'à ces 6 jours. Quand j'ai accouché de Clémence, dans ma valise de maternité, j'avais emmené une photo de Louise que j'avais posée sur ma table de chevet. Et je crois que c'est le premier soir où... de la naissance de Clémence, je lui ai parlé de sa sœur. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un en particulier et que malheureusement, ben, elle ne la rencontrera pas, mais que ça ne voulait pas dire que leur histoire, elle s'arrêtait là, et que je lui ai expliqué un petit peu avec mes mots, sans parler de la mort de sa sœur, mais pour fait, j'ai survolé sa vie en lui faisant comprendre qu'elle ne se verra jamais. Et à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi un peu la descente d'hormones, tout ça. Donc, c'était terriblement dur et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré.
Louise est décédée lorsqu'elle avait 6 jours. Et c'est lorsqu'elle a eu 6 jours que Clémence a accompagné ses parents au cimetière pour rencontrer sa sœur.
J'avais besoin que, comme pour dire, bah tu vois, je viens te rencontrer ce jour où toi, tu es partie, on a le même jour, on a le même âge. Parce que pendant ma grossesse, je disais l'inverse. Je disais toujours, bah, première sortie de mon enfant, ce sera aller au cimetière. On sort de l'hôpital et on va au cimetière. Puis en fait, quand elle est née, je me suis dit, c'est pas juste pour elle. Non, tu peux pas lui faire ça. Tu peux pas lui imposer ton chagrin. Ça doit être quelque chose de plus doux, en fait. Sinon, elle va jamais pouvoir vivre correctement avec tout ça. Donc du coup, la première sortie, c'était acheter du lait. Il y a eu d'autres sorties, voir les grands-parents, etc. Et après, il y a eu Louise. Mais à un autre moment, un moment plus adapté, je pense.
Quelques mois plus tard, vient l'envie d'agrandir la famille, vouloir faire confiance à la vie, retenter l'aventure. Mais le diagnostic de fausse couche vient assombrir les espoirs de Laura. De fausse couche, encore deux. Laura se sent sombrée et quelques mois après la naissance de Clémence, plus rien ne va. C'est la chute, la dégringolade. Tentative de suicide, me murmure Laura lors de l'enregistrement. S'ensuit une hospitalisation pour qu'elle puisse petit à petit remonter la pente.
Je me sentais comme une imposteur en fait. J'étais pas à ma place, je me sentais pas comme s'il manquait quelque chose, mais il manquait forcément Louise, mais j'avais trop idéalisé en fait ma maternité, je pense. Du fait d'avoir perdu ma fille très tôt, je pense que j'ai idéalisé le fait de materner. Quand j'entendais à l'époque maman dire « Oh là là, j'en ai marre de ranger les jouets de ma fille », et chaque fois je leur répondais « Bah toi, t'as de la chance, tu peux au moins les ranger ». Ou quand j'entendais les mamans dire « Ah oui, bah moi je dors pas, mon enfant fait pas ses nuits », bah à chaque fois je disais « Bah t'as de la chance d'en avoir un ». Sauf que quand ça s'est imposé à moi, bah j'avais honte. Parce que je me suis dit, mon Dieu, tu as été odieuse pour de mauvaises raisons. Tu étais tellement, en fait, jalouse de ce qu'elles avaient que tu as oublié que ben, si ça t'arrivait à toi, ben, t'aurais pu, tu vas avoir le revers de la médaille. On va te dire la même chose. Quoi. On va te dire, ouais, ben, il y a quelques mois, tu n'étais pas si compréhensible que ça. Donc, du coup, je me suis beaucoup tue. Donc, il y a eu tout ce qui était baby blues qui est passé par là et c'était énormément fort pour Clémence. Et avec les grossesses qui se sont arrêtées, et accompagnées à tout ce qui s'ajoute au deuil en plus, hein, donc entre le baby blues, le deuil périnatal, plus les fausses couches consécutives à chaque fois, je me dis je vais jamais m'en sortir, je peux plus. Et il y a eu un moment où bah j'ai lâché prise en me disant mais stop, tu seras jamais heureuse en fait. Elle est là et toi t'es pas là finalement. Bah arrête tout quoi. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Et à l'hôpital, j'étais très 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 malade. Et donc je leur ai dit, ben est-ce que c'est possible de faire une prise de sang pour savoir ce que j'ai parce que je me sens vraiment pas bien en fait. Donc ils m'ont fait une prise de sang. Donc j'avais pas de retard dans mes règles. Hein, j'avais mes règles normalement. Et là à l'hôpital, ils m'ont dit, ben voilà, vous êtes enceinte de 8 semaines. D'accord. Donc, j'ai appris ma grossesse à l'hôpital. Après une tentative de suicide, ça a marqué vraiment le début d'une grossesse chaotique, déjà. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah alors là, on est mal barré. Hein. Je suis sortie sans trop d'accompagnement. On m'a juste dit qu'il serait bien que je voie quelqu'un pour en parler, mais je voyais déjà quelqu'un pour en parler. Donc, je voyais pas trop d'issue à ce moment-là, si ce n'est que ma grossesse, ben... Comme à chaque fois, je l'ai idéalisé. Donc, du coup, ça m'a aidée, ça m'a boostée à ce moment-là, cette grossesse-là. Et j'avais tellement de rendez-vous à faire que, du coup, plus possible de penser à la dépression. Parce que, du coup, ils ont quand même si mis un mot sur tout ce que je vivais en me disant que que j'étais dépressive, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, il y a eu ça et après donc j'ai fait tout ce qui était biopsie, échographie, biopsie qui s'est très mal passée, 45 minutes de torture où j'ai eu un hématome placentaire après, j'arrivais plus du tout à marcher, il fallait que je m'occupe de Clémence en plus de ça. La grossesse était tellement rapprochée que du coup, j'étais très fatiguée. J'attendais les résultats avec impatience en me disant « Mon Dieu, est-ce qu'elle va pouvoir vivre ou non ?» Quand j'ai eu enfin les résultats, ça a été la délivrance.
La délivrance, car le bébé qui naîtra quelques mois plus tard et que Laura et Jordan prénommeront Salomé n'est pas porteuse de la mutation génétique. Malgré tout, le répit est de très courte durée car l'enfant à naître présente un retard de croissance important. Lors d'une échographie, la gynécologue détecte d'ailleurs un problème au niveau des intestins. Enceinte, Laura doit retourner faire des examens complémentaires au CHU de Dijon, celui-là même qui a pris en charge Louise avant son décès. Nouveau coup de massue. In utero, le bébé va bien, mais elle devra être longuement examinée à la naissance. D'autres examens seront prévus. Une grossesse éprouvante, donc. Mais lorsqu'elle naît, Salomé va bien, et elle débarque dans la vie de ses parents et de sa grande sœur, Clémence, en juillet 2019.
Le jour où Clémence devait venir à la maternité pour rencontrer Salomé, j'étais très stressée, parce que du coup, j'avais l'impression qu'il y avait réparation à ce moment-là, comme si ce moment que j'avais loupé entre Louise et Clémence allait avoir lieu aujourd'hui. Bon, c'était... Dans ma tête, c'était très bizarre et c'était terriblement émouvant. Dès qu'elle a passé la porte, j'ai eu une vague d'émotions où je me suis dit « ça y est, elle prend un autre grade ». Je sais pas, c'était très bizarre. J'étais très émue, très touchée qu'elle soit présente. Et ça s'est fait dans la douceur, dans la joie. Après... Donc, quand on a quitté l'hôpital, j'ai emmené donc à son sixième jour. Je l'ai emmené sur la tombe de sa grande sœur, du coup, et je lui ai expliqué. Je l'avais pas forcément fait avant. Je lui avais pas expliqué qui était Louise, mais elle avait entendu son prénom. Mais il n'y a que quand elle est arrivée là-bas qu'on lui a expliqué que c'était sa grande sœur, qu'elle ne verrait jamais, pour le coup. Après, c'était un petit peu plus compliqué, il faisait pas très beau ce jour-là, donc le temps fait que aussi on se sent bien, on se sent moins bien quand on vit un deuil périnatal. Et ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions qui jouaient, d'autant plus que le début de la vie de Salomé, bien qu'elle ait été en très bonne santé, ça a été très compliqué, elle dormait pas beaucoup et elle était très... comme s'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, du coup, ça a été compliqué pour moi de... J'avais peur, en fait, à chaque moment, de me dire il y a ça, c'est au-dessus de notre tête. Est-ce que ça ne va pas arriver maintenant? Est-ce que, comme oui, ça va attendre 4 jours? Enfin, j'étais vraiment paniquée pour le coup et je le suis encore. Hein. Dès qu'elles sont malades, je prends température, je m'en rends malade, je suis incapable de donner du Doliprane à mes enfants. Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de motivation. Il faut que quelqu'un soit à côté de moi parce que j'y arrive pas, parce que j'ai l'impression que ça y est, elle va mourir.
Car quand on perd un bébé, certaines choses, a priori anodines pour d'autres, peuvent prendre des proportions énormes, nous faire perdre pied, nous replonger dans un état pas possible. Pour Laura, il y a le Doliprane. À la demande des médecins, elle en avait donné à Louise, quelque temps avant sa mort. Alors forcément, quand elle doit en donner à ses filles, c'est dur. Beaucoup de choses remontent à la surface. Le deuil périnatal, c'est ta vie. C'est une déflagration qui peut refaire surface à n'importe quel moment. Ça marque à tout jamais. Mais avec l'arrivée de Salomé, Laura prend peu à peu ses marques. Maman à temps plein de 2 petites filles à la maison et d'une 3e, quelque part dans le ciel au milieu des étoiles. Finalement, pense-t-elle, sa famille est au complet. Mais c'était sans compter sur une grossesse surprise et l'arrivée en février 2021 de Romy. Ce fameux mois de février, comme Louise et comme Clémence. Une grossesse divisée en 2, avec une première partie marquée par la peur d'une récidive, et puis les résultats, la bonne nouvelle tant attendue. Alors on reprend son souffle.
C'est un jour, j'ai fait un test parce que, je sais pas, un matin je me suis levée, je me suis dit c'est bizarre, j'avais rien qui montrait que j'étais enceinte, mais je me suis dit fais un test. Et là, les barres sont arrivées tout de suite. Je me suis dit ah, je suis enceinte. Et donc je me suis posé tout un tas de questions, quand est-ce que j'allais accoucher, etc. Donc premier écho, on m'annonce que en fait le terme est prévu pour le 25 février. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est le jour de l'anniversaire des 5 ans de Louise. D'emblée, oui, dès que j'ai eu ma date d'échographie de datation, qu'elle m'a dit, voilà, en fait, il y a deux termes à chaque fois. Il y a un premier terme le 25, et après, elle m'a dit, et le deuxième, il est le 1er mars. Donc là, elle m'a regardée, l'air de dire, ouais, je comprends, je sais. Et elle m'a dit, comment vous vous sentez? J'ai dit, je sais que c'est elle qui vient me dire, t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider. Elle m'a dit, vaut mieux le voir comme ça, mieux qu'autrement, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'attendais Romy, que malheureusement, le chemin du deuil était beaucoup plus long que ce que je pensais, que c'était pas parce que j'avais eu deux enfants entre elle et la grossesse actuelle que finalement je m'en étais mieux remise. Au contraire, je pense que c'est vraiment Romy qui est venue boucler la boucle. Mais qu'avant ça, j'avais pas conscience qu'en fait, j'avais terriblement mal. Au moment de la grossesse de Romy, je me suis rendu compte que j'ai fait un plus grand chemin que j'ai parcouru en toutes les années avant. Là où j'ai attendu Clément, Salomé, ou là où j'ai vécu leur premier grand moment, finalement, j'avais pas tant évolué que ça. Alors que pour Romy, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, par contre. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu avant, j'étais là sans être là. Que je me souviens pas exactement de ma grossesse pour Clémence, que je sais pas réellement quel sentiment m'animait à ce moment-là. Salomé, c'était psychologiquement terriblement dur et à ce moment-là, j'ai plutôt même régressé dans mon deuil. Donc tout ça fait que quand Romy est venue, il y a eu comme un pansement qui s'est mis à ce moment-là sur les grossesses. Il n'y avait pas ce sentiment de pression que j'avais pu avoir par le passé. Quand j'ai eu Louise, elle est arrivée après des fausses couches. Quand j'ai eu Clémence, elle est arrivée après Louise. Donc il y avait vraiment cette course à la maternité constante. Et il y a eu Salomé qui est venue quand même très très précocement après une grossesse. Donc tout ça, ça a été vraiment une course en fait. Et comme Romy n'était pas prévue, et à ce moment-là, il y a eu autre chose qui s'est jouée. C'était plus doux parce qu'il n'y avait pas la course. C'était pas un marathon, c'était juste on est nous et on vit un moment parce qu'il est là. C'est tout. C'est vraiment été la grossesse la plus psychologiquement la plus souple, la plus facile, physiquement la plus dure parce que j'avais deux bébés plus une grossesse. 4 grossesses consécutives, c'est quand même beaucoup pour le corps. Mais psychologiquement, je me sentais rassurée, comme si il pouvait plus rien m'arriver maintenant.
C'est donc en février, mais avant le 25, que Romy vient compléter le tableau familial. Comme ses sœurs avant elle, elle fait la rencontre de Louise lorsqu'elle a 6 jours. Le lien continue de se tisser entre les 3 petites sœurs et la grande sœur. Louise, elle ne vit plus, mais elle vit d'une autre manière. En fait, c'est Laura, Jordan, Clémence, Salomé et Romy qui continuent de la faire vivre. Absente, Louise, avant tout, vivante, Louise.
Déjà, j'ai eu la chance, on va dire, de faire vivre toujours Louise pendant les 16 mois où j'ai pas eu Clémence. Et pendant ces 16 mois-là, j'ai continué de la faire vivre d'une autre manière. Donc, je savais, en fait, quand j'ai perdu ma fille, j'essayais de chercher du réconfort et du soutien là où j'en avais pas. Et je suis tombée sur une maman qui avait elle-même perdu sa fille, Juliette. Et à chaque fois, je dis que c'est la meilleure amie de ma fille au paradis. Et elle m'a dit une phrase qui résonne et qui résonnera toujours. C'est « Tu n'es plus sa maman-maman, mais tu peux être une maman autrement. » Et en fait, je me suis dit « Oui, pourquoi pas l'être autrement ?» Louise, elle n'aura pas besoin de veilleuse pour sa chambre, mais elle aura peut-être besoin de veilleuse au cimetière avec tout ce qui est lampe solaire. Elle aura peut-être besoin. Donc, j'ai été maman autrement à ce moment-là. C'était le temps qu'il me fallait pour être une autre maman. Et du coup, quand Clémence est arrivée, il y avait déjà tout ça qui était mis en place. Donc, du coup, j'ai rien eu à changer. J'ai pas eu un autre équilibre à trouver. C'était déjà imposé. Et Clémence, très petite, on lui a parlé de sa sœur. Donc, on l'a emmenée au cimetière. Et c'est pas que le chagrin était passé, mais elle a pas vécu les phases où on pleurait au cimetière. Elle a connu que le côté salvateur de l'emmener et lui présenter. Donc du coup, ça s'est toujours fait très facilement avec elle, lui a montré qu'il faut nettoyer la tombe, lui arroser ses fleurs. Donc Clémence, en fait, elle a fait avec nous ce chemin, elle nous a incité à aller vers la vie, mais la vie avec Louise. Donc elle elle-même inclut sa sœur dans tout ça. Quand on va dans un magasin à chaque fois de fleurs et qu'elle nous dit « je veux une fleur pour Louise », ben oui, même si nous on n'y pense pas, elle y pense. Donc il y a comme une relève et on se sent rassuré dans nos émotions quand elle est avec nous. Il y a maintenant Salomé qui commence à comprendre plus de choses. Elle connaît le cimetière, elle sait quand on passe devant que c'est pour sa sœur. Donc Louise a toujours fait partie de ce paysage familial constamment, tout le temps. Elle est là au-dessus, même si nous, on la voit pas. Quand Clémence me pose des questions sur sa sœur, je lui réponds le plus facilement possible et j'essaye vraiment d'apporter des mots juste pour qu'elle les comprenne. Pendant très longtemps, hein, j'ai été un petit peu perdue sur mon positionnement, comment parler de sa sœur, comment parler de la mort à un enfant qui vit et qui n'a pas conscience de tout ça. Comment insérer la mort dans un quotidien chez un enfant qui est innocent, c'était très dur pour moi. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages. J'ai essayé de me documenter au mieux. Et en fait, je me suis dit, mais arrête, c'est bon, ton intuition sera toujours la bonne, tu es sa maman et tu sais ce qui est le mieux pour elle. Et il n'y a pas très longtemps, Clémence a voulu aller faire une sieste dans mon lit. Il y a beaucoup de photos de Louise dans notre chambre. On a mis un petit peu moins dans le salon et tout ça. On a essayé de bien organiser pour que chacun ait vraiment une place et qu'il n'y ait pas que Louise ou que Salomé ou que Clémence, que ce soit vraiment de manière partagée. Sauf que dans ma chambre, bah, j'ai toutes les photos que j'avais pu avoir auparavant dans mes anciens logements. Et Clémence me dit « Ah, maman, la photo, là, pourquoi elle a un ballon avec une étoile dans la main, Louise ?» Et en fait, peu de temps après sa mort, on a fait une illustration chez une créatrice qui a fait une très belle illustration avec une tenue que j'avais achetée pour ma fille qu'elle n'a jamais mis, avec le doudou. Et on a volontairement mis un ballon avec une étoile qu'elle porte dans sa main pour les 1 an. C'est comme on l'imaginait pour ses 1 an, en fait. Donc, du coup, je lui ai expliqué pourquoi on l'a fait. Que c'était une manière, donc, pour nous de l'avoir dans les belles choses, de l'avoir en une étoile, parce qu'une étoile, pour moi, c'était beau. Tout ce qui est beau, ça pouvait être elle, tout simplement, parce que je ne savais pas réellement où elle était. Et donc, du coup, ça a continué. Elle m'a demandé où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qui lui est arrivé. On en avait déjà discuté par le passé, mais jamais réellement. Et là où j'ai trouvé ça beau, c'est qu'elle ne m'a pas parlé de sa mort. Elle m'a demandé qui était Louise dans sa manière de vivre. Et est-ce qu'elle aimait le bain ? Elle m'a dit, est-ce qu'elle a aimé le bain ? On peut dire que non, pas du tout, elle n'aime pas du tout le bain. Ah bon, pourquoi ? Tu sais, elle pleurait beaucoup quand on lui faisait prendre le bain. Elle n'aimait pas trop l'eau. Alors elle rigolait, elle me disait « Ah bon ?» Et elle buvait des biberons. Bah oui, je lui donnais des biberons parce que j'allais être Romy, donc forcément il y a une différence là-dessus, donc elle était curieuse. Elle m'a demandé si... Donc je lui ai raconté que quand elle buvait son biberon, elle avait toujours un œil qui me regardait et l'autre qui dormait, alors que c'était marrant. Qu'on aimait beaucoup lui faire des câlins, qu'elle avait une odeur un peu sucrée. Et je lui ai dit, tu sais, des céréales le matin, ça sent un peu Louise des fois. Parce que je lui ai raconté qu'à l'hôpital, j'avais emmené des céréales, que j'ai raffolé des trésors de Kellogg's. Et que quand j'étais à l'hôpital, j'avais Louise dans les bras et je mangeais les céréales au-dessus de sa tête. Et du coup, la pauvre, elle en avait plein dans les cheveux. Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait cette odeur-là. Alors, elle rigolait. Donc, c'était vraiment un bon moment d'échange avec elle. Mais en fait, je pense que les vraies questions qu'ils ont en eux, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient plus là, parce que finalement, la finalité, ils sont plus là. Les vraies questions, c'est comment ils étaient, quel genre de bébé ils étaient, et pourquoi je l'aimais autant, je pense.
Cet épisode touche à sa fin et je tiens à dire un grand merci à Laura pour ce précieux témoignage. Puis l'histoire ne s'arrête pas, l'épisode y pourrait se poursuivre. Car aujourd'hui, Laura est de nouveau enceinte. Une grossesse surprise, comme pour Romy. Alors je croise fort, fort, fort les doigts et je lui souhaite à elle et à toute sa famille le meilleur. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également me donner un petit coup de pouce en participant au financement du podcast. Rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/au-revoir-podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.